François Elbron, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et vous souhaitiez ce soir revenir sur les polémiques récentes avec Éric Zemmour sur sa réécriture de l'histoire de France, ses attaques contre Bernard-Henri Lévy et ce que vous percevez, François Elbron, comme des lignes de fracture entre Français et Juifs à son sujet. Alors tout d'abord, pourquoi considérez-vous que sa réécriture de l'histoire de France est une stratégie politique déterminée et surtout dangereuse ?
Alors, comme beaucoup d'observateurs et d'analystes, j'ai été frappé par sa volonté de réécrire l'histoire de France, et surtout sur des sujets et des thèmes qui paraissaient évidents, qui paraissaient validés par l'ensemble de la communauté historienne et historique, et où il n'y avait même plus de questions. Il y a un an, le 29 septembre 2020, sur CNews, il s'attaque même à l'innocence de Dreyfus. Il déclare « Beaucoup étaient prêts à dire Dreyfus innocent, même si c'est trouble cette histoire ». Voilà, il le dit le 29 septembre 2020. Deux semaines plus tard, le 15 octobre 2020, il enfonce le clou et il explique qu'il y a eu des expertises mensongères qui conduisent à la mise en accusation de Dreyfus, mais on ne saura jamais à propos de l'innocence de Dreyfus, et que ce n'est pas évident. Et il ajoute, et en plus Dreyfus n'était pas attaqué tellement en tant que juif, mais en tant qu'allemand. Alors sachant que Dreyfus venait d'une famille de juifs alsaciens qui avaient quitté l'Alsace en 1870 pour ne pas devenir allemand. Donc il réécrit même cette histoire où il y a eu des dizaines de milliers de pages qui ont été écrites par les plus grands historiens. Je pense à un historien qui a fait une œuvre remarquable, s'appelle Philippe Auriol. L'innocence de Dreyfus a été prouvée par les juges de l'époque et a été validée par l'ensemble de la recherche historique. Le traître était Esterhazy, n'est pas Dreyfus. Pourquoi Zemmour réécrit l'innocence de Dreyfus ? Un sujet aussi qui a fait polémique, et j'en ai débattu, et j'en ai même écrit un article dans La Règle du Jeu à ce sujet, c'est sa remise en cause du rôle de Vichy dans la déportation des Juifs. Alors il dit que Vichy a livré les Juifs étrangers dans une sorte de marchandage horrible pour sauver les Juifs français. Mais ça, c'était la défense de Jacques Izorni, l'avocat de Pétain, qui disait « Monsieur, il n'y a pas eu crime, c'est la théorie du glaive et du bouclier qui n'a pas tenu ». C'était la défense de Laval et de Pétain au procès de 1945. Et cette thèse a été complètement réfutée par les historiens, à commencer par Klarsfeld, Paxton, Azéma et plus près de nous, Laurent Joly. C'est une thèse qui est fausse. Ces historiens qui ont travaillé sur des milliers de pièces d'archives, Vichy n'a jamais rien négocié. Vichy a trahi les Juifs étrangers comme les Juifs français, et ce, dès le 3 octobre 40, parce que dès le 3 octobre 40, un document qu'il y a au Mémorial de la Shoah, dans le statut des Juifs de Vichy, établi par Vichy, sans aucune pression allemande, 3 octobre 40, deux mois après la défaite, Pétain raye un article qui avait été introduit dans ce statut des Juifs, et cet article disait que étaient exclus du statut des Juifs les descendants de Juifs nés français ou naturalisés avant 1860. Donc dès le 3 octobre 40, Pétain met dans le même sac les Juifs français comme les Juifs étrangers. Et d'ailleurs, il y a des rafles. Il y a la rafle de mai 41 qui vise les Juifs étrangers, mais il y a une rafle de décembre 41 qui vise des Juifs français, même des notables, et même l'ancien secrétaire d'État à la guerre, Pierre Masse, qui était pourtant le supérieur hiérarchique de Pétain pendant la guerre. Donc, historiquement, c'est faux. Autre exemple. Il dit que la résistance, dans la résistance, il y avait autant de gens de l'Action française, de l'extrême droite, que de gens de gauche. Et alors, c'est faux. Il y a eu effectivement des personnalités d'extrême droite, d'Action française, comme Pierre Bénouville ou Henri Freinet, mais ils étaient une extrême minorité. Et si on prend la liste des compagnons de la Libération, c'est une infime minorité. Donc il y a une volonté délibérée de Zemmour de exonérer l'extrême droite française depuis 120 ans, de Barrès, de Maurras, de Pétain, de Laval, de Bousquet, de Papon, de l'exonérer de ses crimes pour que cette extrême droite retrouve une sorte de capacité à gouverner le pays. Et lui, qui est-il, Éric Zemmour, pour faire ça ? Il est en plus un juif qui donne quelque part l'absolution à cette extrême droite fasciste et antisémite depuis 120 ans, et lui donne un blanc-seing. Et donc c'est une volonté politique délibérée de donner l'absolution. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen ne s'en cache pas, Jean-Marie Le Pen a déclaré « Éric Zemmour se permet de dire des choses que je n'aurais jamais pu dire ». Et donc cette forme de révisionnisme et de négationnisme est une stratégie politique délibérée pour exonérer l'extrême droite de ces crimes.
Alors, autre sujet, mais parce qu'on on a suivi, et Éric Zemmour s'exprime pratiquement tous les jours, donc il faudrait réagir, il faudrait réagir tous les jours. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, François Hellebrun, que il a pas de réel opposant en face de lui. Il a un boulevard pour le moment, mais il n'y a pas de candidat déclaré à droite. La gauche n'a pas déclaré son candidat. Le président de la République ne s'est pas encore déclaré candidat. Bref, on verra si les choses sont différentes une fois les candidats déclarés.
Mais espérons que les campagnes se construisent sur des thèmes de campagne,
bien sûr,
et aussi des thèmes pour l'avenir de la France.
Alors, pourquoi les attaques d'Éric Zemmour contre Bernard-Henri Lévy représentent, selon vous, une menace, cette fois pour la démocratie ?
Elle représente une menace pour la démocratie, parce que, je vais essayer de rappeler un peu les faits, Bernard-Henri Lévy, dans une excellente tribune parue dans Le Point le 12 octobre et reprise dans La Règle du Jeu le 18 octobre, Bernard-Henri Lévy déclare et titre ce que Zemmour fait aux non-juifs. Et il l'attaque en disant tout ce que déclare Zemmour, pas seulement sur les juifs, pas seulement sur l'extrême droite, mais aussi sur les étrangers, sur les immigrés, sur les arabes, sur les musulmans, tout ce qu'il déclare sont contraires aux legs juifs à la France, qui relèvent de la morale et de la responsabilité pour autrui. Il rappelle, à juste titre, Bernard-Henri Lévy, que dans le judaïsme, il y a deux points centraux, l'amour du prochain, qui a été repris par le christianisme, mais aussi que tu accueilleras l'étranger dans ton pays comme toi-même. Et en ciblant ces attaques contre les immigrés, contre les Arabes, contre les Africains, comme les musulmans, qu'ils soient français ou étrangers, Zemmour ne répond pas à ce legs juif à la France. Il y a une autre phrase de BHL que j'ai trouvée formidable, qui rejoint un peu ce que j'ai expliqué en répondant à votre première question. Bernard-Henri Lévy écrit « J'observe sa rage à embraser la rhétorique barésienne et maurassienne la plus criminelle, comme s'il voulait arracher les yeux de la synagogue sur le fronton martyrisé de Notre-Dame. » Les yeux de la synagogue sont bandés sur le fronton de Notre-Dame, et effectivement, sa rhétorique barésienne et maurassienne, donc rappelle Barès et Maurras, les deux grands idéologues de l'extrême droite française au début du XXe siècle, c'est exactement la politique de Zemmour. Zemmour est interrogé deux jours plus tard sur CNews, et qu'est-ce que dit Claire Zemmour au lieu d'entrer dans un débat d'idées? Il dit « Bernard-Henri Lévy est le visage du traître, le visage absolu du traître ». Il déclare aussi « Bernard-Henri Lévy, le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde ». Au monde ! Alors déjà, il connaît très mal l'antisémitisme dans le monde, c'est vrai que c'est un sujet qui n'intéresse pas. Celui qui est la plus grande cible des antisémites dans le monde s'appelle Georges Soros, il ne s'appelle pas Bernard-Henri Lévy. Alors, pourquoi c'est grave, pour répondre à votre question, qu'il ait déclaré « Bernard-Henri Lévy, le visage du traître, le visage absolu du traître ». Ce n'est pas juste un polémiste qui s'exprime. Ce n'est pas juste un portefeuille de l'extrême droite française qui s'exprime. C'est quelqu'un qui veut être candidat à la présidence de la République française, qui peut donc devenir candidat, puis après, on ne sait jamais, président de la République. Quelqu'un qui dit que d'un autre qu'il est le visage absolu du traître, ben quand on est un peu un dictateur, et apparemment les modèles d'Éric Zemmour sont des dictateurs, ben on fusille les traîtres. Donc c'est une menace pour la démocratie qu'une telle personne, tenant de tels propos, souhaite devenir candidat à la présidence de la République.
Enfin, en quoi voyez-vous des lignes de fracture dangereuses dans le nécessaire combat contre l'antisémitisme au sein de la communauté juive française à son sujet ?
Ce qui me frappe, c'est que la plupart des dirigeants, même la très très grande majorité des dirigeants de toutes les grandes institutions juives françaises, depuis toujours, se sont mobilisés dans deux combats contre l'antisémitisme. L'un est contre l'antisémitisme d'extrême droite, qui existe toujours, qui est toujours verbal, qui est toujours même violent, qui attaque des synagogues, qui attaque des cimetières, les profanations. Et on le voit d'ailleurs dans les études d'opinion, il y a 50% des électeurs de Marine Le Pen qui ont des opinions antisémites. Il y a un autre combat contre l'antisémitisme, qui est l'antisémitisme d'extrême-gauche, l'antisionisme, mais aussi l'antisémitisme qu'on a appelé le nouvel antisémitisme, et comme Bernard-Henri Lévy, j'ai signé une pétition en ce sens il y a quelques années, qui est l'antisémitisme venu de certains milieux arabo-musulmans qui, par haine du judaïsme, par haine d'Israël, véhiculent des théories et des idéologies antisémites qui ont conduit dans notre pays jusqu'à l'assassinat de 12 juifs par des islamistes radicaux, terroristes, assassins. Et donc, il y avait une sorte de, je dirais, de d'accord entre toutes les institutions juives et tous les dirigeants juifs de lutter contre ces deux formes ou ces trois formes d'antisémitisme avec autant de vigueur les uns contre les autres. Éric Zemmour déplace les choses et ne voulant exonérer l'extrême droite de son antisémitisme, et à juste titre un certain nombre de dirigeants de la communauté juive comme Serge Klarsfeld, Francis Calival, président du CRIF, Yonatan Arfi, le vice-président du CRIF, Patrick Kluman, l'ancien président de l'UJF, Bernard Musican qui dirige l'IMUR,
voire moi-même,
nous avons attaqué justement Éric Zemmour sur son absolution des crimes de l'extrême droite antisémite française. Il y a aussi des intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, Anne Sinclair, Frédéric Salabarou dans une très belle tribune du Monde du 15 octobre qui l'ont attaqué. Et là, à ma grande surprise, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur certains sites extrémistes juifs dont je ne donnerai pas les noms parce que certains d'entre vous les connaissent, tous ces juifs qui condamnent Éric Zemmour se font traiter de caste, de juifs de cour, de juifs courtisans, aveugles à l'antisémitisme violent de certains arabo-musulmans. Et en attaquant Zemmour, on attaque quelque part leur champion idéal pour lutter contre le vrai antisémitisme dangereux qui est celui de la frange de l'islamisme radical. C'est pas parce qu'on attaque Éric Zemmour sur son soutien à l'extrême droite et son absolution de l'extrême droite fasciste et antisémite en France qu'on arrête de se battre contre les violences qui viennent de l'islam radical. Et d'ailleurs, la plupart de ces dirigeants qui ont été attaqués par certains activistes sur les réseaux sociaux juifs, et dont beaucoup sont hélas en Israël, ce sont des dirigeants qui ont assuré la protection de la communauté juive depuis 20 ans, qui ont assuré le départ, hélas, de certaines de ces communautés juives de banlieue, mais qui ont assuré financièrement leur transfert vers des banlieues moins dangereuses, qui ont œuvré auprès des pouvoirs publics pour que la protection de la communauté juive soit renforcée. C'est ce qui a été le cas, notamment quand Manuel Valls était Premier ministre et Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle que 10 000 militaires avaient été déployés devant les synagogues et les lieux juifs. C'était une action du gouvernement, mais grâce au pressing mis par la plupart des dirigeants de la communauté juive. Et donc là, il y a une sorte de guerre au sein de la communauté juive absolument délétère, où là où il faudrait être uni contre l'antisémitisme, Zemmour arrive par sa propagande et ses polémiques à fracturer une partie de la communauté juive. Heureusement, les dirigeants sont unis, mais il y a certaines personnes de base qui sont excitées. On l'a vu dans une tribune de Golnadel récemment, on l'a vu dans une tribune de Sarah Catan récemment, on l'a vu dans une tribune d'autres plumes proches des milieux les plus extrêmes en France, prendre une défense aveugle d'Éric Zemmour, ne comprenant pas que c'est une ligne de fracture au sein des Français juifs. Et c'est quelque chose qui m'inquiète, comme les lignes de fracture que crée Éric Zemmour au sein de la démocratie et de la République française.
François Heilbronn, qui est professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.